Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus bande-annonce.
About Kim So-hee, film coréen de Julie Jung, je pense, avec Kim Si-hyun et Bae Doona dans les rôles principaux. Et alors, je veux juste noter quelque chose avant de présenter le film, c'est que le titre original veut dire en traduction littérale « prochaine So-hee ». Donc So-hee, c'est le prénom de la personnage principale. Et en anglais aussi, ça s'appelle « Next So-hee ». Et je pense que c'est un peu mieux que la traduction française « About Kim So-hee » parce que... pour des raisons que je vais expliciter dans quelques secondes.
Ce serait peut-être moins plus difficilement compréhensible.
Ça aurait dû être la prochaine So-hee, du coup.
Ouais, mais c'est pas, je pense que c'est pas clair pour un titre français. Enfin, pour un...
Je sais pas. Ouais,
c'est clair quand t'as vu le film, mais quand tu sais pas ce que ça raconte...
Ouais, mais pareil en coréen. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que ce serait moins clair, plus clair quand t'as pas vu le film dans un autre film.
Ouais, mais
parce qu'en anglais, c'est pas plus clair quand t'as pas vu le film, Next So-hee. Hein.
Ouais, mais c'est pas... parce que t'as les films chinois ou tout ça, t'es titres à rallonge où ils te disent tout le film. T'sais, c'est pas
ouais,
le
mais
même,
non,
on
non,
pas
parce que là,
approche,
c'est vraiment... Il y a vraiment ces deux mots, et ça veut dire... C'est traduction littérale, prochaine So-hee. Et en anglais, le titre, c'est Next So-hee, qui veut pas dire grand-chose grammaticalement, parce qu'on aurait dit The Next aussi, mais ils ont choisi de traduire littéralement, et moi je trouve que ça aurait été plus intéressant. Après, moi j'ai un petit j'ai des comptes à rendre aux traductions de,
traductions
françaises, surtout quand c'est pour traduire en anglais, mais d'une manière qui change le... enfin, je comprends pas trop quoi. About Kim So-hee, je comprends pas trop pourquoi est-ce que c'est le film, le titre français.
Je crois qu'on a des traducteurs français qui veulent être payés et qui veulent justifier le fait qu'ils sont payés, donc ils font des trucs.
Ouais, mais c'est bizarre. Enfin bref.
Non, mais je suis d'accord, c'est bizarre.
Là n'est pas la question, ceci dit, voilà, tu veux présenter le film ou tu veux que je le présente?
Je te laisse présenter.
D'accord. Il me semble que j'avais mis un petit peu une moins bonne note que toi, mais bon, étant donné
c'est
que
vrai.
Tu parles depuis 2h30, je vais te faire ce cadeau.
C'est vrai aussi.
Donc, About Kim So-hee, alors bien sûr, avant, je vais faire un petit disclaimer, il se passe quelque chose d'assez important au milieu du film qu'on va dévoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, peut-être allez le voir et ensuite revenez. Désolée. Et il fallait le voir, voilà.
Oui, je puis.
Et donc, nous suivons. Donc le film est séparé en deux parties. Et dans la première partie, nous suivons donc le personnage de So-hee Kim, qui est une jeune lycéenne dans un lycée agricole de Corée, et qui va, en fait, qui trouve un stage, son prof lui trouve un stage, puisque, alors, moi, peut-être Justin, t'as plus de connaissances que moi sur un peu le système, enfin, peut-être t'as fait plus de lectures, je sais pas. Moi, j'y connais globalement rien, hein. J'ai tout découvert dans le film sur le système de scolaire et le système d'emploi en Corée. Mais d'après ce que j'ai compris, à la fin de ton lycée, tu dois faire un stage. Et en fonction de comment est-ce qu'ils placent les élèves
en
stage...
Enfin là,
dans
le lycée professionnel, le gars agricole... Donc
ouais, mais après, il y a des lycées commerciaux. Il y a d'autres stagiaires qui, dans la même boîte qu'elle, qui sont issus des lycées commerciaux. Mmh. Et donc,
ça peut être professionnel
ouais,
aussi,
trop
un commercial.
Si mais en gros, voilà. Donc, elle est en lycée professionnel, donc ils ont un taux d'emploi. Parce qu'après, à un moment donné aussi, il y a un personnage qui va au bureau des inspecteurs un peu de l'emploi et qui leur disent « Oui, mais c'est moi qui suis spécialisée dans les lycées professionnels. » Il y a une personne qui se présente comme ça. Donc, je ne sais pas trop si c'est pareil dans les lycées généraux, s'il y a le système de lycée général.
Je crois que ce n'est pas ça dans les lycées généraux.
Et voilà, donc tu sais, t'as fait une grimace pour me dire que tu savais pas, mais en fait tu sais.
Non, parce que je savais pas ce que t'allais me demander exactement, c'est pour ça, mais c'est pas ça.
Donc bon, en tout cas, elle est en lycée professionnel. À la fin du lycée professionnel, il faut faire un stage, et selon combien de leurs élèves ils réussissent à placer en stage, ils ont en fait des statistiques de taux d'emploi. Et s'ils ont un taux d'emploi trop bas, bah ils perdent, il y a un classement des lycées, ils perdent leur subvention. Enfin, il y a tout un système comme ça qui est organisé. Donc elle se retrouve avec un emploi. Donc le prof est hyper excité, il lui dit je t'ai trouvé, t'es la première personne qu'on place dans cette entreprise.
Mais parce qu'en plus c'est la filiale d'une grosse boîte, voilà. Donc ils sont contents d'avoir une élève dedans.
C'est pour apparemment Escoria Telecom machin. Sauf qu'en fait c'est un sous-traitant et c'est un call center.
Ah.
Voilà. Donc déjà...
C'est vachement moins sexy que ce que t'es promis.
Ouais. Ouais, ouais. Si t'as déjà fait une journée de boulot dans un call center, déjà tu sais que ça s'annonce pas terrible. Et donc elle y va, et en fait assez rapidement, enfin le premier jour en fait, elle se rend compte que service client, ça veut dire en fait dissuader les gens de résilier leur ligne. En fait, c'est tout ce qu'elle fait toute la journée. Et de la même manière, il y a une compétition entre les agences, une compétition entre les équipes, patati patata, une compétition entre bien sûr les employés de la même équipe pour savoir qui a le plus haut taux de dissuasion, le plus bas taux de résiliation. Et puis elle se rend compte aussi assez rapidement que toutes les personnes employées dans le service sont stagiaires. C'est que des jeunes filles et c'est que des stagiaires.
Et concurrence stimulée par la boîte qui fait des tableaux de,
voilà.
Pour savoir
y a
qui,
des
qui
tableaux,
est combien...
Bien sûr, il y a des primes promises si tu fais un certain taux, machin. On lui promet un salaire et puis en fait, on lui fait signer un deuxième contrat. C'est un peu... Il y a un peu un truc un peu bizarre qui se passe au début. Elle lui dit mais j'ai déjà signé un contrat. Il fait non, c'est ça la procédure et tout. Elle signe un deuxième contrat et en fait, ce deuxième contrat permet en fait de la payer moins que ce qui a été promis, que le salaire minimum. Donc voilà, on assiste vraiment à un déroulé classique de la machine capitaliste d'exploitation qui n'est pas... Bon, bah, moi, j'ai lu des critiques qui disaient « Oulala, vraiment, le système en Corée... on est... » Enfin, il y a une différence, mais en même temps, on est quand même en France, en tout cas, dans une droite route vers un système similaire.
Mais c'est quand même plus... Parce que moi aussi, j'ai travaillé en centre d'appel. Il y a quand même... ce que tu vois dans le film, c'est pas encore passé en France.
Non, mais moi, j'ai pas travaillé en centre d'appel. Ma mère y a travaillé, mais moi, j'y ai pas travaillé. J'ai évité ça comme la peste, autant que faire se peut.
c'est mieux que le McDo, tu vois.
Je sais pas. Bah, ça dépend vraiment de...
Au moins, tu pues pas quand tu rentres chez toi.
Ouais, ça dépend. Ah, ça dépend vraiment de... Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment un... Il y a des destructions mentales aussi qui viennent dans d'autres espaces.
Non, mais ce qu'on voit dans le film, c'est quand même... C'est quand même très spécifique à la Corée, je pense, parce qu'on se rend compte, à un moment donné, à toutes les strates, parce que ça commence à les mettre en
concurrence.
Mais
attends, j'ai pas fini. Ah, vas-y. Si tu voulais résumer ou pas, tu m'as dit que t'allais résumer.
Vas-y.
Et donc on assiste pendant la première partie du film à son... C'est en fait le lent écrasement de sa psyché par ce travail.
Alors qu'elle a une forte personnalité
au départ.
Alors
qu'elle a une très forte personnalité, c'est vraiment pas quelqu'un qui se laisse faire. On le voit dans quelques scènes dès le début du film qui nous mettent tout de suite en face de qui elle est. Et on voit bien que c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Et d'ailleurs, elle va se battre jusqu'à la fin du film, jusqu'à son départ du film. Elle va se battre vraiment, elle va pas se laisser faire, quoi. Elle va pas se laisser faire. Mais quand même, bah, en fait, elle essaye de s'en sortir, et puis finalement, en fait, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se noyer dans un lac, volontairement. Et là, Marc...
Chouette.
Ouais, énorme ambiance. Et là, Marc, la fin de la première partie du film.
Ah, donc c'est encore ce genre de film où on te présente un personnage au début, et après tu changes le personnage principal.
T'as deux chapitres. Et puis là, hop, on change de focus et on suit Dunabe, qu'on a déjà rencontré dans la première partie extrêmement brièvement, et qui est inspectrice de police et qui se retrouve avec le suicide de cette jeune femme, du coup, à classer au début. Hein, c'est ça qu'elle veut faire. Elle dit, bon, bah voilà, on classe, hein, c'est bon, c'est un suicide. Les parents veulent faire une autopsie, donc elle autorise l'autopsie. Elle dit, voilà, bon, bah c'est suicide. Et puis elle passe quand même, elle fait des visites un peu de... Enfin, voilà, pour
la forme.
Pour la forme, voilà, elle va chez les parents, puis elle va à son travail. Et en fait, quand elle va à son travail, on lui dit, oui, elle avait des problèmes de caractère, mais bon, elle avait des problèmes de performance. Elle était première le mois dernier, puis elle a chuté, parce qu'elle était aussi en arrêt disciplinaire au moment où elle s'est suicidée, c'est important de le préciser. Et puis, en fait, quand elle repart, il y a une des petites employées qui la suit et qui lui indique qu'il y a déjà eu, en fait, un suicide dans cette boîte auquel on a assisté, d'ailleurs, qui était, en fait, le manager, le premier manager de l'équipe, et qui lui dit, qui en gros, lui envoie un peu, qui me plante une idée dans sa tête. Et à partir de ce moment-là, le personnage de Dunabe va vraiment suivre ce fil, malgré la résistance de sa hiérarchie, qui lui dit, on n'enquête pas sur un suicide, qu'est-ce que tu vas foutre le bordel partout. Et en fait, elle va remonter les strates, se rendre compte qu'en fait, il y a Tout le monde est coupable et à la fois personne n'est coupable parce que c'est le système en fait qui est totalement. C'est vraiment. T'as vraiment un David et Goliath quoi. C'est vraiment. Elle s'attaque avec toute sa bonne intention et son indignation tout à fait justifiée à un monstre qui a pas de tête en fait. C'est pas possible de.
Parce que ce qu'on a vu dans le microcosme du centre d'appel, en fait, ça s'étend à toutes les strates du pouvoir ou de décision coréen. C'est-à-dire, elle remonte chaque strate. Elle se retrouve dans le, comme tu l'as dit, dans le.
D'abord à l'école.
À l'école. Déjà, à l'école, il y a le, son professeur principal qui a des résultats à tenir. Donc, même si ça se passait mal à son boulot, il faut qu'elle tienne le coup. D'ailleurs, on l'avait vu dans la première partie où il l'a plus ou moins poussé, alors que ça se passait mal pour elle. Après, on remonte à leur équivalent de l'éducation nationale. Et là aussi, ils ont des chiffres à tenir s'ils veulent des subventions régionales. Donc, si ça se passe mal dans une école, ils sont obligés de s'arranger parce que on peut pas se permettre. Et puis, on remonte comme ça, puis on voit que il y a une espèce d'esprit concurrentiel à toutes les strates de pouvoir qui écrase l'individu, quoi.
C'est ça. C'est qu'en fait, il y a pas, et même le personnage de l'inspectrice, en fait, se retrouve écrasée elle-même par le poids de, et en plus, elle, en plus d'avoir ses interactions avec les ministères et qui se renvoient tous la balle, tous ces personnages se renvoient la balle, les patrons de l'entreprise, tout ça. Tout le monde se renvoie la balle en disant, mais c'est pas nous. Et puis, tout le monde aussi, un peu renvoie sur le personnage de la stagiaire de Soi, renvoie le truc en disant, elle avait un caractère compliqué, ça devait, c'était, voilà. En gros, elle avait des problèmes, c'était pas
d'ailleurs,
quelqu'un
stable.
D'ailleurs,
à un moment donné, elle pique une colère, parce qu'à un moment donné, à l'éducation nationale, elle dit, oui, mais de toute façon, c'était son caractère. Et dit, il y a eu un suicide, il y a eu un mort, et vous reprochez juste son caractère.
C'est ça.
Tout ce que vous trouvez à dire.
On voit bien que pour elle, c'est vraiment quelque chose, ça devient quelque chose qu'il a bouffe en fait ce truc, mais au fur et à mesure en fait qu'elle a ses dialogues de sourd avec les hiérarchies et en même temps qu'elle a des dialogues avec les amis en fait de Soi, donc tous ces jeunes, et qu'elle découvre qu'en fait ils sont tous dans des états lamentables, qu'ils travaillent tous soit à l'usine, soit pour des sous-traitants dans des stages avec des horaires atroces, des charges de travail insupportables, ou alors qu'ils ont abandonné en fait l'école parce qu'ils voulaient arrêter leur stage et qu'ils pouvaient pas, et que du coup ils sont à la dérive. Il y en a une notamment.
Parce qu'en plus on découvre il y a un système extrêmement vicieux au niveau des stages où
si t'arrêtes tu dois nettoyer les chiottes.
C'est ça. Non, même pas si
des trucs humiliants et tout.
Non, mais même pas ça, c'est-à-dire si t'arrêtes, je crois quand elle a ses primes, c'est une histoire de primes au début, c'est-à-dire ils lui font miroiter des primes. Et quand elle fait ses performances, elle réussit à la droit à ses primes, elle comprend que le deuxième contrat qu'ils lui ont fait signer, c'est en tant que stagiaire, elle ne peut pas toucher ses primes.
En
donc ils lui font miroiter après.
Deux mois plus tard.
Oh là là.
Et en fait, leur but, c'est qu'elle démissionne d'elle-même et puis elle aura fait son rendement et puis ils n'auront pas versé d'argent. Donc c'est vraiment le truc.
Et après, dans l'école, si tu démissionnes de ton stage, tu portes l'étiquette rouge. Et tu fais les corvées dégueulasses, enfin les corvées difficiles de l'école, jusqu'à ce que tu retrouves un stage en fait. Donc il y a vraiment tout un système qui est là pour broyer les gamins, vraiment les broyer totalement quoi. C'est une destruction massive, c'est incroyable. Et donc elle découvre ça et c'est assez intéressant. Moi j'ai trouvé la deuxième partie, même si à ce côté un petit peu quête en fait, où elle, c'est-à-dire qu'on la voit un peu répéter le même dialogue à plusieurs endroits et avoir toujours la même réponse.
Puis il y a même un mimétisme qui se fait avec Kim Soo-hee sur les endroits qu'elle fréquente, avec le restaurant, le dernier restaurant où elle a été avant de.
Une scène miroir qui est assez magnifique d'ailleurs. Et moi j'ai trouvé que ce qui était vraiment beau, c'était les moments où elle dialoguait avec les gamins en fait, et où elle voit ces existences qui sont vraiment totalement à la dérive. Et notamment il y a une des amies, la meilleure amie en fait de Soi, qui fait des mukbangs sur internet. D'accord. Et c'est ça qu'elle fait parce que elle a arrêté l'école en fait, et du coup elle se gave et ensuite elle se fait vomir et ensuite elle se regave, et c'est ce qu'elle fait dans sa vie. Et il y a un moment donné où elle regarde un peu les vidéos de sa chaîne et où elle voit en fait il y a une souffrance en fait qui est à fleur de peau chez tous ces petits qui ont 17-18 ans et qu'ont personne en fait. Leurs parents sont pas au courant, leurs parents les encouragent à travailler dur parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas les conditions
ou alors s'ils savent ils font semblant, parce que les parents de Kim Soo-hee ouais, on demande, leur... parce qu'au quotidien, ils voient bien qu'elle est en train de...
Mais en fait, il y a aussi un truc de, bah, il faut que leurs enfants aient un travail. Enfin, voilà, c'est vraiment... En fait,
le travail comme valeur.
Ouais, toutes les strates de la société sont tellement pourries par ça, en fait, que personne les protège, les gosses. Et que du coup, t'as ce personnage d'inspectrice de police qui devient un peu leur champion, leur championne, et qui se précipite dans le truc, qui s'engueule avec tout le monde, qui devient parfois même violente physiquement, et qui, en fait, se termine... sans aucune résolution, quoi. Il y a vraiment... parce qu'il n'y a pas de possible, il n'y a pas de catharsis possible, il n'y a pas de punition. Et moi, ça m'a vachement fait penser à France Télécom, parce qu'il se trouve que je lis un livre là-dessus en ce moment, qui s'appelle « Personne ne sort les fusils » de Sandra Lucbert, et qui est une analyse du langage capitaliste. Et c'est assez intéressant parce que j'ai vraiment retrouvé ça aussi dans ce film, où alors t'as un drame humain qui arrive, et elle va interroger toutes ces personnes qui lui répondent avec des mots... de rendement, en fait, des taux, il lui répète taux d'emploi, le taux d'emploi, et ça la rend dingue. À un moment donné, elle leur dit arrêtez de me dire taux d'emploi, j'en peux plus. Mais en fait, ils ont que ça à la bouche, parce que
ils oublient l'individu complètement.
Voilà, l'individu n'existe pas. C'est vraiment profondément déprimant au dernier degré.
Après, je pense quand même qu'il y a, même si je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a un côté capitalisme un peu universel, mais il y a quand même des éléments assez spécifiques
j'en doute.
À la Corée du Sud. Alors là, je dis la Corée du Sud, mais même les pays asiatiques, genre le Japon, c'est pareil, le boulot en général, où ce côté rendement, où il faut s'oublier soi-même.
Avec le côté ultra compétitif.
Bien sûr, c'est ça. Mais je pense que très clairement, c'est pas un film qui pourrait se transposer exactement comme il est en France, par exemple.
Et d'ailleurs, il y a un exemple de call center, on en avait parlé il y a quelques années, c'était Sorry to Bother You, je sais pas si vous vous en rappelez celui-là.
Oui, j'avais vu, c'était
excellent.
Mais
qui était un côté un peu plus drôle et satirique, c'était moins serious business, voilà. Mais tu voyais aussi le côté très déshumanisant du truc.
Parce que par exemple en Corée du Sud, ce côté concurrentiel au plus tôt, c'est quelque chose qu'on voit, je pense qu'on a tous déjà vu des reportages où gamin, il est en CE1, et ils lui font déjà prendre des cours privés à côté pour qu'il puisse machin. Et il y a plusieurs films qui se sont un peu calmés là-dessus ces dernières années, mais dans les années 2010, il y avait beaucoup, beaucoup de films. Alors l'équivalent du bac en Corée s'appelle le Suneong. Et en fait, c'est un peu... En France, on a un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est un diplôme vraiment fondamental pour ta vie future, pour les universités, pour que faut que t'aies une bonne note, faut que t'aies Suneung. Sauf que en Corée, ça a l'air encore pire, quoi. Ouais. Et il y avait eu plusieurs films dans les années 2010, dont un qui s'appelait justement Suneung, ou qui montrait des horreurs qui se passaient dans les classes, dans le contexte du passage de ce concours-là, de concurrence, de crimes entre les élèves, d'agression, d'harcèlement, parce que ce diplôme, c'était tellement de pression des parents. Et il y avait eu plusieurs films dans les années 2010 qui parlaient de ça. Et là, ça rejoint ça. Hein, parce que, mais les études, bon, même si on n'est pas, ils ne sont pas à ce stade-là, mais on sent qu'il y a cette pression des études. Et même dans d'autres films qui ne parlent pas forcément de ça, mais la pression du côté social, je ne sais pas si vous aviez vu Burning, y avait ça aussi, le côté social, le côté il faut que j'ai une bonne place dans la société, mais serait-ce que pour trouver une copine, il faut que. Ouais.
Mais c'est sûr, de toute façon, il y a vraiment. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ce que je trouve assez. Quand je regarde ces films, ce qui me fait un peu flipper, parce que. Bah en fait, c'est que moi je suis assez partisane de balayer devant sa porte, hein. Donc quand je regarde des films où les choses sont pires, j'ai une grande difficulté à me dire ah, heureusement c'est pas comme ça chez nous, parce que je vois bien que le train nous arrive en pleine gueule, et que là, typiquement, le gouvernement qu'on a en ce moment, en fait, leur but de fin, c'est d'arriver à cette société du rendement avant tout, et de l'écrasement de l'humain, et même si le fait qu'on soit quand même dans un pays où on a arraché des acquis sociaux. À la sueur de nos fronts.
On peut tous les perdre.
Et on peut tous les perdre quand même. Rien ne nous en protège, et on le voit bien avec la situation actuelle. Et c'est vrai que j'ai du mal à regarder ces films. Et je trouve que quand on regarde, il y a un petit côté un peu ethnocentré quand on regarde des films comme ça et qu'on se dit ah, heureusement c'est pas comme ça en France, parce qu'il y a un côté un peu voilà, pays des droits de l'homme. Voilà. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film, même si j'ai passé globalement un très mauvais moment. J'en suis ressortie vraiment lessivée. Hein, ouais. J'en suis ressortie vraiment je regardais le plafond, quoi. C'était vraiment.
Ça t'a pas donné envie de cramer des trucs?
Moi j'ai toujours, c'est ma baseline que j'ai envie de cramer des trucs. mais en fait, même, enfin, tu vois, le truc en fait que j'ai trouvé difficile justement, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, c'est vraiment un film assez désespéré en fait.
Ouais.
C'est vraiment un film assez... Enfin, il n'y a pas... il n'y a pas d'espoir. Et on termine sur une scène qui est vraiment poignante, absolument presque insupportable de poignance. Enfin, parce que, en fait, bah, cette petite, elle faisait de la danse. Elle adorait danser. Elle connaissait les chorés de K-pop par cœur et tout. Et c'est quelque chose qui disparaît totalement de sa vie quand elle commence son stage. Et elle y retourne juste une fois, et c'est pareil, c'est une scène que j'ai trouvée très difficile à regarder, où elle s'assoit dans le fond de la salle, et c'est des petites mamans qui dansent et qui l'accueillent avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, et elle les regarde danser, et elle fait des petits mouvements de tête, et elle sourit, et c'est la seule fois qu'on la voit sourire, en fait, dans le film. On la voit très très peu sourire et rire. Il y a une scène où elle explique à ses copines stagiaires comment elle arnaque les vieux, que j'ai trouvé aussi assez glaçante, où en fait elle commence à se prendre un peu au jeu du truc parce qu'elle essaye de s'adapter, en fait elle essaye de survivre. Donc tu vois bien qu'à un moment donné
on imagine que si elle avait eu ses primes, elle aurait évolué, elle aurait eu cette mentalité là aussi à l'avenir.
Ah oui, totalement.
Donc c'est un conditionnement.
Donc ouais, c'est vraiment un film qui a pas, il y a pas, il y a une issue qui est vraiment noire, en fait, de dire bah c'est voilà, on est dedans quoi, on est dedans et c'est l'horreur et c'est l'enfer. Et il n'y a pas de place pour la joie, il n'y a pas de place pour l'espoir, parce qu'en fait, on est totalement écrasé par cette soupape. Enfin, c'était horrible, quoi. C'était abominable. Enfin, vraiment, c'était...
Allez le voir quand même.
Allez le voir. Non, mais vraiment, allez le voir, parce que c'est un film à voir. Mais on n'en sort pas avec
l'espoir
avec
dans
la
ce
banane
monde,
quoi. Non, c'est affreux, c'est vraiment, c'était abominable. Voilà, 10 sur 10, horrible. Merci beaucoup, plus jamais ça. Voilà, c'est.
Eh bien, je vous remercie d'avoir souffert pour nous.
Ouais. <c'est... rire>
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.